Bon, les amis, je vais tenter de vous parler de l'Œdipe d'une façon relativement brève, ce qui va pas être facile parce que il y a des tonnes de choses écrites là-dessus. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé un peu, mais là, on va essayer de rentrer plus précisément dans la question. Pourquoi elle est importante, cette question? Parce que, comme on l'a déjà vu ensemble, il y a deux niveaux dans la création de la maison qui nous constitue. Le niveau de l'infantile dans les premiers temps de notre vie, tout ce qui a été mis en forme par Winnicott, qu'on pourrait appeler le niveau du narcissisme. Le niveau de l'identité de base, quelque part, du moins des fondations initiales. Et puis, il y a le deuxième niveau, qui est celui plutôt freudien, qui consiste à reconnaître le corps dans lequel on est, les relations dans lesquelles on est, la gestion des pulsions, etc. Ça, c'est un niveau plus élaboré. Ça correspond en gros à Freud, qui a d'abord énormément parlé de la question de l'Œdipe, et ensuite Winnicott, qui a donné l'accent sur tout le début de notre histoire. Il faut ni sous-estimer l'un, ni sous-estimer l'autre, comme je vous l'ai déjà indiqué précédemment dans mon topo juste avant. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'il faut absolument parler de la crise œdipienne et de l'Œdipe, alors qu'on a vu dans la dernière séance, dans la dernière rencontre, comment l'archaïque était fondamental? Eh ben, il faut en parler aussi, parce que c'est là que vont se construire la plupart des éléments qui vont être facilement visibles dans notre fonctionnement adulte. Ceci dit, ce que vous allez voir dans ma présentation, c'est que tout ce qui s'est passé précédemment à l'Œdipe, qu'on pourrait appeler l'anté-Œdipe, à préparer ce qui va se passer lors de l'Œdipe. Donc c'est aussi pour ça que je vous propose de prendre la feuille des étapes de développement, la schématisation des étapes de développement que je vous ai donnée il y a quelque temps, parce que tout y est dessus. Justement, on va se rappeler quelles ont été les étapes précédentes. Qu'est-ce qui caractérise ces étapes précédentes ? Eh bien, là où elles ont commencé à préparer l'Œdipe, avec ce qui va être fondamental au niveau de l'Œdipe, le fantasme de castration. Ce qui a commencé à préparer ce fantasme de castration, c'est que, en fait, à chaque étape de l'enfance, il a fallu se castrer de quelque chose, se couper de quelque chose, perdre ce qui a été représenté comme vraiment important précédemment. Il y a eu bien sûr la perte du sein, c'est-à-dire que le sein, pour le bébé, s'était vécu presque comme une partie de lui-même, qui pouvait faire venir ou faire disparaître à volonté. Et puis un jour, il a dû perdre le sein parce qu'il fallait progressivement passer à une nourriture solide. Et ça a été une première perte, comme si c'était vécu comme une perte d'une partie du corps. Une fois que l'enfant est passé à la nourriture solide, il est aussi passé progressivement au stade anal, c'est-à-dire apprendre la propreté, investir beaucoup cette zone-là, cette zone que les parents surveillent. Donc, dans la phase anale, l'enfant, à nouveau, a été obligé de reconnaître qu'il était dépendant, qu'il devait se soumettre aux règles, à la loi, on ne fait pas n'importe où, n'importe quand, etc. Il était non seulement dépendant de la loi extérieure, c'est-à-dire des parents, mais aussi dépendant des rythmes internes. Ça vient quand ça veut, et ça ne vient pas quand on voudrait. Le caca, il a un peu sa propre vie, d'une certaine manière. Donc une double dépendance, l'extérieur et l'intérieur. Et vous verrez que cette double dépendance va nous marquer aussi dans la phase adulte. Bon, alors je dépends de l'extérieur pour telle ou telle chose de ma vie, mais aussi de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et donc, quand l'enfant a vécu le stade anal, là aussi, il a eu le sentiment de perdre quelque chose. Il perdait son caca, c'est-à-dire comme une partie de son corps. Comme si on prenait une partie de son corps et qu'on la jetait dans les toilettes, dans un bruit infernal. Donc il a fallu progressivement qu'il découvre la différenciation entre la partie et le tout. C'est pas parce que je perds cette partie que je disparais complètement. Et l'apprentissage du différé, parce que on ne fait pas n'importe où, on se retient, on le fait au moment où il faut, quand on est sur le pot, etc. Autrement dit, la perte de pouvoir d'un côté, et d'un autre côté, la tentative de reprendre ce pouvoir en étant têtu, en ne donnant pas forcément quand on demande, quand les parents le demandent, en étant opposant. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que la phase du non se situe justement un peu après cette expérience de l'analité comme étant particulièrement importante. Donc des pertes successives, perte du sein, perte de la phase dépressive, fondamentale, c'est-à-dire je me rends compte que je ne suis pas le centre du monde, qui fait venir les choses quand il veut, magiquement, que je suis en fait au contraire dépendant de ma mère, comme un objet séparé de moi. Ça va être un truc central, cette phase dépressive, avec la perte du fantasme central qui est « Je suis le centre du monde et je peux faire venir ou faire disparaître à volonté ce que je veux. » Ça va nous habiter énormément. On pourrait l'appeler le fantasme du tout. Être tout. Être le tout, être le Dieu, d'une certaine manière. Et vous verrez que ça se retrouve dans ce qu'on appellera plus tard, à partir du moment où c'est investi sur la zone du pénis, ce qu'on appellera le phallus. Mais quand on dit phallus, ça veut dire quoi? On veut dire avoir la puissance du tout, donc une espèce de mythe. Le phallus est un mythe, alors que le pénis est une réalité. On va y revenir. Donc, perte du sein, phase dépressive, perte de la crotte, des fesses, ça va favoriser l'idée que ce qui est moi, le sein, la crotte, eh bien, ça peut disparaître et ça peut être enlevé par d'autres. Ça va préparer ce qui va être central au moment de l'Œdipe, le fantasme de castration. À savoir, l'explication que se font les enfants à propos de la différence des sexes, qu'ils constatent en se regardant les uns les autres. C'est qu'il y en a qui ont quelque chose qui dépasse, et d'autres qui n'ont rien du tout qui dépasse. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien du tout, mais il n'y a rien de visible. Il n'y a pas le petit pénis. Les uns ont le pénis et les autres ne l'ont pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est une sorte d'énigme. Et cette énigme va amener inévitablement l'idée que, puisqu'on m'a déjà enlevé le sein et la crotte, on peut m'enlever aussi le pénis. Ce qui fait que, pour les garçons, l'idée ça va être, oulala, je risque de me faire couper ça. Et pour les filles, oulala, si ça se trouve, on m'a coupé ça. Alors pourquoi est-ce que ça devient un phénomène si important? Eh bien parce que, après la phase orale où le sein était fondamental, après la phase anale où le plaisir se trouvait non plus à la bouche et en haut, mais à l'anus et en bas, à un moment donné, il va y avoir l'abandon aussi de cette source de plaisir qui suscite trop de dépendance et trop de difficultés, il va y avoir un déplacement vers l'avant. C'est-à-dire, au lieu de s'intéresser à l'arrière et à la crotte, l'enfant va s'intéresser à l'avant. C'est ce qu'on appelle le passage à l'urétral. C'est-à-dire, là devant moi, il y a quelque chose qui est sous la main et visible, que je peux regarder quand je veux, qui est ma zone urétrale, mais qui se trouve être aussi la zone du plaisir. Pour la petite fille, c'est « je me tripote le clitoris ». Et pour le garçon, « je me tripote le pénis ». Et dans les deux cas, ça me donne du plaisir. Et là, ça va vraiment être à l'origine d'un point extrêmement intéressant qui est « si j'ai ma source de plaisir à disposition sous la main et sous l'œil, eh bien je peux peut-être enfin être indépendant. Indépendant de l'autre, indépendant de ma mère, de mon père, à une condition, c'est que soit je ne sois pas castré, pour les petits garçons, soit je récupère le pénis pour être tout, pour la petite fille. Donc en résumé, ce qui était vraiment difficile pour l'enfant précédemment, c'était la dépendance, l'impuissance, la perte. Mais arrivé au moment où il se sent capable d'avoir sa propre source de plaisir indépendamment de l'autre, il découvre avec stupéfaction qu'il doit gérer deux choses fondamentales. La différence des sexes, comment est-ce que ça peut s'expliquer? Et la différence des générations, qui fait qu'il risque fort de rester impuissant face à ses grands, ses parents. Et en annexe, des questions complémentaires sur la différence entre la sexualité infantile et la sexualité des adultes, question qui se posera face à l'exclusion de l'intimité du couple parental. À la rigueur, il peut venir un moment avec eux dans le lit, mais au bout du compte, il devra rejoindre son petit lit pendant que les deux adultes restent ensemble à faire on ne sait pas trop quoi. Bref, il y a beaucoup de choses qui se posent à lui et qui vont agiter sa recherche. Non seulement il ne sait pas comment faire avec ses différences, mais aussi il reste en arrière-plan, en sous-main, comme chez nous tous, le désir du tout, le désir qu'on appelle phallique, qui n'a jamais été complètement abandonné, bien sûr, ni par l'enfant, ni par l'adulte que nous sommes devenus. Et pour lui se pose crûment cette question, au moment où il cherche comment il va pouvoir faire avec ses fantasmes de castration et avec son désir d'être plus fort que les adultes. L'enfant, garçon ou fille, va donc s'engager dans une bataille sur deux fronts. Comment faire d'un côté avec le fantasme de castration? Comment faire d'un autre côté avec la rage de se voir si petit face à la différence des générations? La réponse va être la suivante. Pour le petit garçon, essayez de prendre la place de celui qui est censé être porteur du phallus et que la mère désire, ou tout au moins dont elle est la partenaire, puisque l'enfant est issu de leur relation. Il va donc se mettre à tenter de séduire la mère et d'évincer le père. S'il réussissait ça, dans son fantasme, alors, il n'aurait plus de danger de se faire castrer par le père, et il serait porteur du phallus tant désiré par la mère, ce qui le garantirait dans la source de son désir phallique d'être le tout. Pour la petite fille, ça se joue un peu autrement. En effet, si le garçon a l'angoisse de castration, c'est-à-dire l'angoisse d'être castré par le porteur du phallus, la petite fille a le complexe de castration, c'est-à-dire l'idée qu'elle a été castrée, mais elle a l'espoir que du coup le porteur du phallus lui donne, lui redonne, lui rende, la comble en lui donnant ce qui lui manque de façon à ce qu'elle ait enfin le tout. Donc elle va s'efforcer de séduire le père en espérant qu'il lui donne le phallus, qui pourrait être symbolisé par l'enfant qu'elle a donné à la mère. D'une certaine manière, la petite fille attend que son père lui donne un enfant et qu'elle soit enfin aussi pourvue et pleine que sa propre mère l'est et l'a été. Donc elle va séduire le père et essayer de mettre la mère de côté pour prendre sa place. C'est la configuration classique de l'Œdipe, du petit garçon et de la petite fille. Or, les enjeux sont très puissants. En effet, il s'agit au point de vue pulsionnel d'un désir de mort vis-à-vis du rival et d'un désir d'inceste vis-à-vis du parent convoiteux. Donc, enjeu pulsionnel qui va plus tard encore habiter les enjeux pulsionnels de notre sexualité adulte. On va savoir comment faire avec ça, on va devoir avoir découvert comment faire avec ça. Autre enjeu, devenir aussi fort qu'un adulte, ce qui veut dire devenir adulte soi-même. Évidemment, l'enfant devra renoncer à cette idée. Mais durant la guerre oedipienne, il est bon qu'il ne renonce pas facilement, qu'il ait l'énergie de vouloir à tout prix être la petite femme de son père ou le petit homme de sa mère, car cela lui permettra d'habiter fortement son désir relationnel et amoureux. Donc un enjeu supplémentaire, la façon de se situer en tant que futur homme ou future femme dans la vie adulte. Enjeu pulsionnel, enjeu relationnel, enjeu aussi d'habitation de son corps sexué. Si j'ose me lancer dans l'Œdipe, j'ose m'affirmer comme porteur du sexe féminin ou du sexe masculin, triomphant et plein de désir. Dans un premier temps plus archaïque, Winnicott en a parlé en évoquant la personnalisation. Il était question d'intégrer son corps avec son esprit, qui était une façon de s'habiter. Et là, c'est une étape supplémentaire dans laquelle il est question d'intégrer son corps sexué, avec joie, plaisir, puissance, audace. C'est un troisième enjeu, l'acceptation de son propre sexe, reconnu comme valable et source de séduction. Si on réfléchit à tous ces enjeux, on se dit qu'il est important que les parents ne cassent pas trop vite cet espoir. Comme dirait Barbara, on en sourit du coin de l'œil, avant de dire à l'enfant que de toute façon il ne gagnera pas cette guerre et qu'il ne peut envisager qu'une victoire, plus tard et ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Mais, comme vous le voyez, il est sain et bon que l'enfant ait le culot de vivre ça pendant un certain temps, avant d'accepter de perdre la guerre, la perdre provisoirement évidemment, en reportant au futur et ailleurs ce qu'il attend et espère. Reste donc que l'autre partie de l'Œdipe, c'est la façon dont les parents vont réagir à tout ça. Et on peut même aller plus loin, en sachant que le rapport de l'adulte au corps sexué de l'enfant a déjà été présent inconsciemment dans la relation dès le tout petit bébé. La façon dont la mère ou le père tenait sa fille dans les bras, lui donnait des soins, lui lavait le corps et le sexe, n'était pas sans répercussion liée à la façon dont la mère ou le père lui-même avait réglé la question de la relation avec le sexe de cet enfant. Que ce soit une relation joyeuse et admirative, ou au contraire une sorte de frein, de dégoût, de rejet, de refus. Dans la manipulation du corps de l'enfant bébé, avant même l'Œdipe, se préparait quelque chose d'un Œdipe puissant et gai, ou au contraire, faible et incertain, indéterminé, pas très sûr, pas très à l'aise. Donc déjà, le rapport du parent avec le sexe de l'enfant avait commencé à jouer dès le tout petit bébé. Mais là, c'est encore plus fort quand il est question d'enjeux de séduction. D'autant que, à cet âge-là, l'enfant n'hésite pas à s'exhiber, à être curieux, à faire attention à tous ces trucs sexuels, et qu'on est parfois obligé de lui rappeler qu'on ne touche qu'avec les yeux certaines parties du corps de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont les parents auront eux-mêmes traversé l'Œdipe va jouer sur la façon dont l'enfant le vivra quand ce sera son tour. Tout ne tient pas qu'à l'enfant. On a donc d'un côté les fantasmes, l'intérieur de l'enfant, et puis d'un autre côté, les enjeux relationnels, fortement lié au positionnement inconscient de l'environnement, tel que Winnicott a pu le mettre en exergue. Alors, la question de la différence des générations dans un premier temps, l'enfant va se débrouiller avec un mécanisme de défense qui s'appelle le retournement, qui est intérieurement, ou même des fois en le disant, « moi quand je serai grand et toi quand tu seras petit », c'est-à-dire comme si là ça allait être le renversement des choses dans le futur. Ce qui d'ailleurs se retrouvera parfois quand le parent âgé se retrouvera en EHPAD et aura la dépendance vis-à-vis de son enfant, ce qui peut expliquer quelquefois aussi certaines difficultés pour les personnes en EHPAD. Donc ça, c'est une des façons, évidemment, qui va tenter pour essayer de s'en sortir. Bon, je peux pas être le plus grand, mais plus tard, c'est moi qui serai le plus grand et l'autre qui sera le plus petit. À la rigueur. Ensuite, ça tiendra pas, évidemment, éternellement, c'est ce mécanisme de défense, mais bon, c'est comme ça. Par contre, la différence des sexes, là, c'est une différence irréductible. Et donc, il peut pas vraiment essayer de la transformer. Et donc, il va falloir que l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, faire avec le fait que, eh bien, on est dans ce corps-là, et on a ce sexe-là. Ça va jouer sur pas mal de choses dans le futur. On va se rendre compte, dans les relations homme-femme, comment, finalement, toutes ces questions infantiles sont en sous-jacent dans les relations, hein. Peut-être que cette différence irréductible va conduire à une rivalité avec l'autre sexe. Les hommes en rage contre les femmes et contre leur puissance de conception, du fait qu'ils ont été eux-mêmes soumis à leur mère pendant très longtemps, ça pourrait être une des raisons, une des explications du comportement, par exemple, des hommes en Afghanistan par rapport aux femmes. Bon, une rivalité, mine de rien. Le tout-puissant, c'est celui qui se méfie tellement de cette supposée impuissante qu'est l'autre sexe. Ça peut être aussi la négation, à part la rivalité avec l'autre sexe, il peut y avoir la négation de la différence. Alors là, on est bien en train de le voir aussi, hein. Non, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Penser autrement, c'est vraiment être sexiste. Toute l'idéologie woke qui veut absolument définir que c'est pas normal de reconnaître la différence entre les hommes et les femmes. Il peut y avoir aussi comme stratégie par rapport à cette irréductible différence le fait de refuser son propre sexe et donc son corps sexué. Alors ça peut se voir par exemple à l'adolescence avec l'anorexie, une façon d'essayer d'attaquer ce sexe-là. Ça peut se voir aussi maintenant avec les progrès de la chirurgie. Et tentative trans, quoi. Je vais me faire couper les couilles et le pénis et je vais me faire injecter des hormones contradictoires. Donc, ou la rivalité, ou la négation de la différence, ou le refus de son sexe, ou plein d'autres choses qui peuvent être sous-jacents à nos choix idéologiques, soi-disant argumentés. Qui, en fait, sont les enjeux infantiles de comment faire avec la différence irréductible des sexes. Mais ça peut jouer en positif, hein, bien entendu, tout au contraire. Dans la relation sexuelle adulte, par exemple, pour la femme, il peut y avoir la joie de recevoir, ou même de capter, le pénis phallus. Dans les premiers temps de l'amour, il y a ça, il y a « remplis-moi, donne-moi ça ». Une augmentation de la joie sexuelle, comme si, enfin, l'autre, avec son pénis érigé, me donnait le phallus, qui d'ailleurs peut être ensuite encore plus marqué par le fait de devenir un enfant, devenir une grossesse. C'est pas forcément une catastrophe de se voir pénétré par le sexe masculin, hein, au contraire. Dans cette optique-là, c'est une joie quelque part. Même si on l'oublie peut-être plus tard, avec les femmes qui ont la rage contre les hommes qui donnent tant d'importance à leur sexe et qui sont tous des violeurs, entre guillemets, bon. Et puis, cette joie de recevoir, c'est paradoxalement, par exemple, ça se voit encore plus dans les grossesses. Durant la grossesse, on a observé, ça a été observé, que pour beaucoup de femmes, il y avait une augmentation de la joie sexuelle, du désir sexuel, etc. Peut-être justement parce que c'est la joie d'être enfin avec quelque chose qui va être de l'ordre du phallus, du tout. Et pour l'homme, ça peut être la joie de donner. Donner du plaisir, donner du sperme, donner un enfant, et surtout la confirmation implicite de l'équation pénis-phallus. Avec mon pénis érigé qui donne la vie éventuellement, enfin qui donne en tout cas quelque chose que l'autre apprécie beaucoup, eh bien quelque part c'est comme si mon pénis était une garantie que je suis porteur du phallus. Comme vous le voyez, tout un tas de comportements sexuels à l'âge adulte, en fait, sont sous-tendus, évidemment, par la façon dont s'est gérée cette phase œdipienne. Bon, à la sortie de l'Œdipe, on va le voir, il y a de toute façon l'interjection des deux images parentales, et ça favorise ce que Freud a appelé une bisexualité psychique, c'est-à-dire, en réalité, on a prioritairement une introjection du parent rival, du même sexe, et à minima, quelque chose du vécu de l'autre sexe. Ce qui fait que, pour les hommes, il y a intérêt à ce qu'ils aient un contact avec leur partie plus féminine, même si elle est faible, et pour les femmes, avec leur partie plus masculine. Alors, comment on sort de l'Œdipe? Eh bien, comme toujours, l'enfant sortira de l'Œdipe comme il est sorti des crises précédentes, c'est-à-dire par le renoncement. S'il est vécu suffisamment bien ce renoncement, parce qu'à un moment donné, faut arrêter la guerre, il faut passer à autre chose, eh bien, ça va développer en soi l'aptitude à gérer les frustrations. Je sais faire avec le fait qu'il y a des limites et des frustrations. Et c'est pas si grave que ça, je peux passer à autre chose. Donc, une bonne sortie de l'Œdipe peut aussi développer l'aptitude en soi à gérer les frustrations. Et à quoi il va renoncer? Ben, il va renoncer à des éléments fondamentaux de la culture et de la civilisation. Renoncer à tuer le rival, l'interdit du meurtre, donc. Renoncer à séduire le parent interdit, donc l'interdit de l'inceste. Renoncer à être le centre de l'attention et du monde. Et toutes ces pertes, tous ces renoncements sont compensés par l'introjection des deux images parentales, et plus particulièrement celle du parent avec qui l'enfant était en lutte. Ça ressemble un peu à l'identification à l'agresseur, sans être vraiment ça, mais il y a une plus grande introjection du parent avec qui on était en lutte. Ce qui fait que, pour un garçon, généralement, c'est une plus grande introjection du modèle paternel, et pour une fille, du modèle maternel. Mais la sortie est plus brutale, plus brusque, plus marquée pour le garçon. Parce que c'est sous le signe de l'angoisse de castration, donc il y a vraiment une espèce d'intensité, il faut, dans la lutte, il faut pas que je me fasse avoir, il faut pas que je me fasse couper, etc., etc. Donc, c'est tellement intense qu'à un moment donné, il y en a marre, allez, il faut que je décroche, parce que sinon je vais, à force d'être tendu dans cette angoisse de castration, ça va être trop difficile. Donc souvent l'Œdipe du petit garçon est marqué par l'intensité de la crainte de castration, et on retrouvera un peu ça à minima comme trace chez l'homme adulte, avec la méfiance, la lutte, particulièrement avec les autres hommes, etc., etc. Alors que l'Œdipe chez la fille est souvent plus soft. Bon, pourquoi? Parce que, comme elle s'imagine déjà castrée, bon, si ça vient pas maintenant, c'est pas grave, c'est déjà fait. Donc, je l'aurai plus tard. Donc elle est moins intense, quoi. Elle peut attendre. Qu'on fait les chansons autour de ça. Un jour, mon prince viendra. Bon, voilà, bien sûr. Donc, en conclusion de cette petite partie, hein, parce que c'est pas la conclusion générale, la sortie de l'Œdipe amène l'identification au rival, et donc, l'idéal du moi, c'est « je vais devenir à l'âge adulte comme mon père ou ma mère », c'est un idéal du moi intériorisé qui est humanisé, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui n'est pas construit par le mental, et donc avec un surmoi qui est humain. C'est une première chose très utile à la sortie de l'Œdipe. Une deuxième chose, c'est la capacité de déplacement de ma réalisation sur ailleurs et plus tard. Et on va voir que ça passe par la sublimation, par la symbolisation, etc. En tout cas, dans l'immédiat, c'est une entrée dans la phase de latence, où on va arrêter après cette guerre, et où du coup, il y a un intérêt pour autre chose, pour les études, pour les jeux, pour les relations avec les pères, enfin les pères PAIR, etc. Et puis, un autre gain de cette période, c'est la gestion des pulsions. Donc, pulsions de violence, de mortifère, de tuer l'autre, et pulsions de sexualité suffisamment gérées, suffisamment contrôlées. Alors, quelles sont les traces négatives possibles après tout ça? Eh bien, il peut y avoir, première trace, le souvenir, enfin le souvenir, il est inscrit quelque part, mais c'est pas forcément un souvenir, la trace d'être le ou la plus faible, comme on l'a été pendant tant d'années. Donc il y a toujours chez nous quand même une possibilité de retrouver en soi la tendance à être, à se sentir pas à la hauteur, le plus faible, les autres savent et moi pas, etc. Ça, c'est pas seulement œdipien, c'est la trace de l'enfance en général. Une autre trace, c'est celui d'être exclu. Je parle des traces négatives pour le moment, hein. Exclu, comme je l'étais, exclu du couple parental, qui eux se débrouillaient sans moi, etc. Une autre trace difficile, c'est éventuellement la difficulté du lien avec sa propre sexualité adulte, si celle-ci est trop marquée par des fantasmes infantiles. Particulièrement autour de la castration, si ça réveille le danger de la castration ou le fantasme d'être castré, ma sexualité adulte va être sérieusement encombrée. Et puis, une autre trace possible, c'est la difficulté à supporter les différences, puisque là, tout s'est joué autour de la question des différences. Ça, c'était plutôt les traces négatives. Les traces positives, si ça s'est bien passé, cette période œdipienne, bien, c'est l'instauration d'un surmoi bienveillant et d'un idéal du moi humain. C'est des frontières claires et sûres, parce que on a été obligé d'en établir. Et ces frontières, ben, ça évite l'anxiété, ça évite la somatisation, ça évite le passage à l'acte, parce que j'ai appris à avoir des espaces internes contenus et à gérer la frustration et les pulsions. Un autre bénéfice, une autre trace positive, c'est la découverte de sa propre force, de son propre sexe, de sa juste place, sans être freiné par un poids trop lourd du désir du tout phallique. On va y revenir. Et tous ces points positifs permettent à l'âge adulte une plus grande facilité dans le relationnel amoureux. Donc c'est quand même pas rien, vous voyez que ça va beaucoup marquer le futur et l'âge adulte. Mais il nous reste quand même, quoi qu'il arrive, et ça c'est indépendant de l'Œdipe d'une certaine manière, cette aspiration au désir d'être tout, au désir phallique. Ben, c'est pas évident de renoncer à être le centre du monde. Et si on tient à être le centre du monde, ben évidemment on se retrouve seul au monde, parce que ça peut pas tenir. Sauf dérive perverse, où on prend les autres comme des objets partiels ou psychotiques dans lesquels on annihile les autres. Ça, c'est un des prix payés très lourd pour vouloir continuer à être le centre du monde. Un autre point un peu qui va chercher à avoir le phallus, c'est être tout pour le parent œdipien. Mais du coup, comme ça exclut l'autre parent, ben finalement on n'arrive pas à avoir le tout. Et au bout du compte, le tout va se réaliser plutôt en pensée, en parole ou en sublimation. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les histoires qu'on se raconte, les narratifs qu'on se raconte ont tellement d'importance dans nos vies, parce qu'en fait, c'est par là que passe un certain nombre de fantasmes et de traitements du désir profond d'être tout. Alors du coup, ça, on pourrait dire que le surmoi post-œdipien offre la réalisation symbolique de ce à quoi il a fallu renoncer. Alors, chez l'enfant par le jeu, mais chez l'adulte par la sublimation, par le fantasme, par les histoires, etc. L'enfant, à travers ses jeux, symbolise ce qu'il traumatise, et il apprend ainsi à réguler ce qui se passe en lui grâce à la symbolisation. Donc, beaucoup de symbolisations vont être issues de l'enfance, des jeux de rôle, etc. Et c'est encore des traces infantiles qui existent chez nous, qui sont très positives, quoi. D'une certaine manière, on a transformé en symbole, et c'est pas pour rien que je vous en parle, évidemment, vous qui faites du rêve éveillé, ce qui nous agite, ce qui nous habite, ce qui nous a été difficile, ce qu'on a traversé, et ce qu'on doit encore traverser, et ce à quoi on va faire face. Des parties de nous continuent à symboliser intérieurement sur le mode infantile, et tant mieux, parce que du coup, on peut accéder à soi-même par l'attention à sa propre boussole interne, comme je vous l'ai déjà expliqué. Le vrai self. Très bien, voilà, donc c'était un aperçu sur ce qu'est l'Œdipe, tel que je le conçois. Évidemment, sur les réseaux sociaux, dans l'idéologie actuelle, il y a une attaque de la psychanalyse qui serait censée être sexiste, être rétrograde, etc., etc. De mon point de vue, c'est vraiment nier quelque chose de fondamental qui est la différence entre nous, la différence des sexes, la différence des hormones. C'est pas pareil d'être baigné dans la testostérone ou d'être baigné dans la progestérone et les œstrogènes. J'ajoute que mon topo porte aujourd'hui sur l'Œdipe classique et ce qui en découle. Mais bien entendu, nous pourrons réfléchir sur d'autres choix sexuels tels que l'homosexualité. Simplement, ce n'était pas mon propos aujourd'hui. Voilà, mais pour finir, je vous souhaite d'habiter le mieux possible votre sexe d'homme ou de femme.